NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2010 et c'est l'épisode numéro 33. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de technologie, d'internet et de gadgets. On parle à tout le monde parce que internet, c'est pour tout le monde, donc c'est pas seulement pour les pros cette émission. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses qui vous concernent directement, puisqu'on va vous parler de Facebook et de l'implication des derniers changements de Facebook sur votre vie privée et la manière dont vous allez surfer sur le net, rien que ça. On aura aussi des histoires d'Apple et de nouveaux iPhone trouvé dans des bars avec des histoires d'éthique de bloqueurs. Vous allez voir de quoi on parle. Et d'autres petites choses. Et je suis très heureux d'avoir deux blogueurs proéminents et célèbres pour parler avec moi de tous ces sujets. Cédric Bonnet, grand podcasteur devant l'éternel. Tu vas bien ?
Ça va très bien.
Tu nous rejoins depuis le sud. Il fait beau, il fait chaud.
Il fait beau, il fait chaud. Et puis pour le 33 ? Vu que j'habite à Bordeaux, c'est quand même sympa quoi, de m'inviter.
Ah, mais c'était totalement calculé. Hein.
Bien sûr.
Complètement, bien sûr. Et on a aussi Corben qui nous appelle depuis son bocal. Comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va bien, ouais.
Alors, pour la petite histoire, Corben avait son micro tout prêt, tout était entièrement préparé. Et puis, au final, ça n'a pas marché.
Donc, ouais, j'ai du matos de ouf et ça merde.
Tu perds de la crédibilité de bidouilleur, là, tout à coup.
Ouais, mais là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bizarre, c'est macOS qui supporte pas le micro à l'entrée ligne. Donc, si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Ah, mais c'est ça, c'est le Mac, en fait.
J'ai testé sur deux Macs différents, c'est pareil.
Ouais, ouais.
Et avec deux micros différents. Bizarre.
Donc, on a l'effet bocal, mais ouais. C'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse t'entendre et te comprendre. Et c'est bien le cas aujourd'hui, donc magnifique. Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire là, j'essaye de meubler, ça marche pas trop. Bref, merci quand même à vous deux d'être là. Avant de passer au sujet de l'émission, je vais tout de même remercier très très chaleureusement Olivier qui nous a laissé un pourboire. Oula, il y a du bruit dans le fond. Qui nous a laissé un pourboire sur le site, comme vous le savez, sur le site lrdv.fr. Vous pouvez aller sur le lien à droite et nous laisser un petit pourboire. Pour mettre du beurre dans les pâtes. Et Olivier a fait ça ce mois-ci, enfin pour cet épisode. Donc, un grand merci à lui. Et on se lance tout de suite dans les sujets de l'émission avec le premier, comme je le disais, Facebook qui a fait un truc. Alors, moi, quand j'ai entendu de quoi il s'agissait au tout début, la première fois, je me suis dit, ouais, bon, c'est comme avant. Et ensuite, j'ai lu l'explication de quelqu'un qui est bien plus intelligent que moi, et j'ai compris qu'il s'agissait, à mon sens, de sans doute la chose la plus importante qui se passe sur Internet cette année, voire depuis quelques années. Avant d'expliquer exactement de quoi il s'agit, je vais le faire dans deux minutes, est-ce que vous partagez mon impression que c'est un truc super important ou j'exagère ?
T'exagères.
D'accord, ok. Ça, c'est clair, Cédric.
Moi, c'est pas un truc important, c'est un truc grave.
Écoutez, si ça, c'est pas du teasing. Alors, je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a, en gros, pris le web d'assaut. C'est approprié le web. C'est un petit peu comme ça qu'on le décrit quand on veut être un petit peu dramatique. Ils ont dit, le web, c'est à nous. Et comment diable est-ce qu'ils peuvent réussir à faire un truc comme ça ? Vous demandez-vous et me demandez-vous ? Eh bien, c'est très simple. Ils ont annoncé la sortie d'un nouveau système qui fait que n'importe quel site web peut intégrer une sorte de petite fenêtre qui est gérée non pas par le site web, mais par Facebook. C'est-à-dire que n'importe quel site peut intégrer un bouton I like ou j'aime qui va afficher le nombre de personnes sur Facebook qui aiment cette page. Alors ça, vous me direz, c'est rien de nouveau, ça existait déjà. C'est vrai, sauf que La différence, c'est qu'il va y avoir, en plus de ça, un échange d'informations qui va permettre à Facebook de savoir où vous allez sur le site et toutes les informations que vous toutes les informations que vous allez pouvoir fournir au site vont être dirigées vers Facebook. Et il peut mettre ça en commun avec les informations qu'il a sur vos amis et sur les habitudes de vos amis, de telle sorte que vous allez pouvoir voir dans cette petite fenêtre, on dit dans la chatroom que j'ai pas salué que c'est une iframe, exactement, hein, pour les gens qui connaissent, c'est exactement ça. Donc dans cette fenêtre, vous allez pouvoir voir qui d'autre de vos amis, par exemple, a également dit qu'il aimait cette page. Donc ce que ça veut dire, ça a l'air anodin comme ça. On se dit, oui, bon, c'est comme les boutons qui disent partager sur Facebook, il y en a déjà beaucoup, il y a les logins par Facebook, le Facebook Connect, etc. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin parce que ça permet à Facebook de comprendre et de connaître toutes vos habitudes de navigation sur le web. Parce que là, ça se fait de manière automatique. Si vous êtes logué sur Facebook, et une fois que vous vous loguez, vous restez logué pendant un bon moment, et tout le monde est, enfin, énormément de gens sont logués sur Facebook en permanence. Si vous êtes logué sur Facebook, vous allez, à chaque fois que vous allez sur un site, n'importe quel site, annoncer, enfin n'importe quel site qui utilise ce système, annoncer à Facebook que vous êtes allé sur ce site. Et si vous cliquez dessus, vous allez annoncer à Facebook que vous aimez bien ce site. Donc c'est une quantité d'informations phénoménale qui n'a jamais été, il n'y a jamais eu une quantité d'informations aussi importante qui a été remise dans les mains d'une seule société. Et ça rappelle évidemment la quantité d'informations qu'a Google, parce que Google, on sait bien qu'ils nous traquent avec nos adresses IP et qu'ils connaissent énormément de choses sur nous. Mais là, Google a déjà beaucoup d'informations sur nous. Ils mettent ça en commun avec toutes nos habitudes de navigation sur Internet et avec les habitudes de nos amis, et ça devient une mine d'informations qui va ensuite leur servir évidemment à faire de la pub super super ciblée. À terme, ça peut même on peut même imaginer que les sites se servent de ces informations pour personnaliser la page sur laquelle vous allez arriver. Par exemple, je sais pas, disons la page du Monde. Quand vous allez sur le site, le Monde sait par Facebook que vous aimez tel et tel et tel truc, et il va mettre en avant telle ou telle histoire pour vous spécifiquement. Donc, ça a beaucoup de bons côtés parce que ça permet de vous présenter des pubs qui vous correspondent, des histoires qui vous correspondent, etc. Et d'un autre côté, ça met une quantité d'informations dans les mains de Facebook sans forcément que les utilisateurs ne comprennent exactement tous les mécanismes qui sont, je dirais, pour le moins préoccupantes. Peut-être pas préoccupantes, mais si on est un tout petit peu préoccupé par sa sécurité, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce résumé ? J'ai pas trop déliré ?
Non, ça va, c'est bien.
D'accord. Ouh, oula, Corbett dit que c'est bien, là. Je suis tout content là. Alors, partons vers quelqu'un qui est un petit peu spécialisé dans la sécurité et dans ce type de problématiques. Corben, toi, t'en penses quoi de cette histoire ? Tu me disais, j'exagère tout à l'heure.
Ouais, non, parce que ça existe déjà, en fait, avec Google, t'as ça déjà, voilà. C'est là ce que Facebook a fait, c'est juste copier Google avec un bouton j'aime, j'adore, tu mets un peu partout quoi. C'est y a pas vraiment de différence. Ils font ça. En fait, si tu veux, c'est un SSO, c'est un single sign-on qui utilise comme base l'annuaire de Facebook. Mais ça reste quand même contrôlable. Dans Facebook, tu peux choisir quelle information tu autorises ou pas à filtrer, enfin à afficher, à donner à d'autres sites. Voilà, et puis il y a rien de, enfin
moi c'est sûr que tu peux contrôler effectivement. Si tu plonges dans les paramètres super compliqués de Facebook de vie privée, faut avouer qu'ils sont pas hyper simples à comprendre non plus. Mais imaginons, parce que quand t'es logué sur Facebook, tous les sites, t'as pas besoin de te loguer sur le site pour qu'il envoie les informations à Facebook, puisque cette petite fenêtre qu'ils utilisent, cet iframe qu'ils utilisent dans leur site, elle va directement mettre de l'information qui vient des serveurs Facebook. Donc ils sauront où tu vas. Par exemple, imaginons, moi je me log sur Facebook, je navigue, je fais des trucs, et ensuite je me dis, j'irai bien sur un site coquin tout à coup.
Ouais.
Comme ça, tu vois, juste c'est théorique quoi.
Comme d'hab.
Je le fais pas moi.
Ouais.
Mais bon, quelqu'un par exemple dit, j'irai bien sur un site coquin. Eh ben, le mec qui va sur le site coquin, si le site coquin a... faudrait lui donner un nom à ce site coquin. Parce que le site coquin, ça fait idiot. Bref, si le site coquin a intégré cette fonction de Facebook, eh ben, sans même que vous n'ayez aucune information ou indication, eh ben, Facebook saura que vous êtes allé sur ce site.
Il n'y a même pas un petit bouton à cocher, à cliquer, qui dit « j'autorise mon site coquin préféré à
bah
utiliser
non.
mes... »
Non, bah non parce que disons que tu peux interdire ce type de choses directement sur Facebook pour l'ensemble des sites, mais avec l'iframe, alors Barrehilly dans la chatroom dit c'est faux. C'est bon, pas la peine de le répéter quatre fois.
Et on dit qu'il faut une validation. Hein,
non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ah. Tu Facebook saura que tu es allé sur le site coquin, mais le site coquin, lui, n'aura pas d'informations te concernant venant de Facebook. Mais par contre, Facebook, il n'a pas besoin que tu dises OK, je vous autorise à avoir mes informations par rapport à ce site. Donc, par exemple, en ce moment, si vous allez sur le site Mashable, vous allez avoir une iframe qui est affichée sur le site Mashable avec le machin like. Avec le bouton like et ce bouton vient de Facebook. Donc Facebook sait que vous êtes sur le site Mashable.
Mm-hmm.
Donc bon, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris. Cédric, c'est bien ça.
Oui. Enfin en tout cas moi aussi c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Mais enfin moi franchement ça me fait un peu peur quoi. Enfin pourtant je suis pas du tout parano et au contraire même je suis le premier à faire confiance aveuglément à toutes ces sociétés qui récupèrent des infos sur moi, tu vois. Mais Facebook, ça fait un petit moment. Enfin, j'ai fait vraiment le ménage dans mes amis Facebook et je pense que je vais continuer. Enfin, ça m'embête vraiment que je donne pas beaucoup d'infos sur Facebook. Tu me diras, hein, je publie pas beaucoup de photos, tout ça, mais c'est vraiment. Je sais pas. C'est vrai. Enfin, tu vois, quand j'ai un blog et que je publie des photos. Ben, les photos sont chez moi, j'en fais ce que je veux, je les maîtrise entre guillemets, tu vois. Enfin, je me fais pas taguer dans tous les sens sur des photos un peu, sur lesquelles j'aurais pas envie, tu vois,
ouais.
d'être tagué. Et là, je me retrouve avec sur Facebook toutes ces infos finalement accessibles par Facebook. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve que Facebook a perdu son essence du départ, c'est-à-dire un réseau pour connecter les gens, quoi. Là, on s'en va vers un autre truc qui pour moi est pas ce que j'attends de ce service en fait. Tu vois.
Ouais, c'est un genre de gros LDAP en fait, enfin d'annuaire de personnes. Et mais ça, on va y arriver de toute façon que ça soit avec ou sans Facebook. Google a commencé, Yahoo aussi. Enfin, ils ont tous leur annuaire. Il y a eu des trucs avec tu sais les OpenID etc. qui étaient un peu dans ce sens-là. J'ai lu un article chez Mozilla là cette nuit là ce matin très tôt qui en fait expliquait que bon c'était l'évolution naturelle du web. On allait arriver vers quelque chose de centralisé au niveau de l'identité, de l'information personnelle.
Ouais.
Mais que, enfin, plutôt que de la laisser, d'en donner la propriété à une société comme Facebook ou Yahoo ou je sais pas qui, Mozilla bosse sur une fonctionnalité qu'on pourra intégrer dans le navigateur, qui sera intégrée et qui permettra de garder la propriété en fait de ton identité personnelle. C'est-à-dire que tu vas te loguer, donc pareil, de la même façon que sur tous les sites, sur ton site coquin, sur tous les sites que tu veux, mais ça sera ton navigateur qui sera le point central en fait, qui diffusera ouais. cette information et elle appartiendra plus à une société privée comme Facebook.
Au lieu que ce soit Facebook, quoi.
Voilà, qui peut la revendre pour faire de la publicité ou que sais-je, tu vois.
Voilà.
Là, tu restes propriétaire de ton identité, ce qui est...
Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, quand vous disiez Google fait déjà la même chose, c'est vrai, Google peut faire la même chose aujourd'hui, mais la grande nouveauté qu'amène Facebook, et là où ça devient vraiment intéressant, et où, à mon sens, ça amène une nouvelle révolution dans la manière d'approcher le web, c'est que Facebook a également ce qu'on appelle ton social graph, ton graphe social. Il sait qui sont tes amis, qui sont tes relations de travail, qui tu connais. Donc, ça veut dire que ils ont des informations sur toi et ton entourage. Google, a priori, n'a des informations que sur toi personnellement, à part avec des essais avec Gmail ou Buzz qui sont pas hyper concluants. Et là, ça peut proposer des services, une valeur ajoutée importante parce que imagine, tu arrives sur un site et tu vois, ah ben tiens, parmi mes amis dans Facebook, Cédric, Corben et machin, ils aiment bien tel aspect de ce site. Ah ben du coup, c'est peut-être que ça va m'intéresser moi aussi. Béréili, je dis Gmail. Il faudrait peut-être que dans la chatroom, il faudrait que tu comprennes ce que je dis. Je dis pas que Gmail est un essai peu concluant. Je dis que la mise en relation du graphe social dans Gmail est peu concluant. Donc voilà. Mais je vais sur un site qui connaît les amis que j'ai et ceux que mes amis aiment. Ça veut dire qu'ils peuvent me proposer des services qui sont complètement adaptés à mes goûts. C'est quand même une valeur ajoutée, ça, non?
Parce que tes goûts sont ceux de tes amis, en fait.
Bah, ils sont certainement plus ceux de mes amis que ceux d'une page qui a été conçue au hasard pour 40 millions de personnes.
Ouais. Mais
ou alors, imaginons même que ça soit pas ceux de mes amis. Je sais que le web est super gros et super immense et dans les sites on s'y retrouve pas. Si je sais que toi et Corben et Jérôme Kainborg et Mathieu Blanco et Yann Allais et tous ces gens-là aiment bien une certaine partie du site où je suis, bah ça pourra m'aider à me rediriger. Je suis en train de faire un petit peu de prendre l'autre côté de l'argumentation là, mais.
Mais tu vois que le truc de Mozilla, par exemple, ces relations d'amis-amis, ça sera à toi de les définir. Il y a des formats des micro-formats, tu sais, comme le XFN, etc., qui permettent, c'est du XML, en fait, qui permet d'établir des mini-cartes d'identité, de relations, en fait, entre les gens, ouais, entre les sites. Et,
ça permet de définir, en fait, le type de relation, si c'est un collègue de travail, si c'est un ami proche,
Ces choses-là, tu les as même déjà dans Twitter, t'as plein de sites où t'as déjà ça, tu le vois pas, en fait, quand tu vas sur le site, mais c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux le parser, tu peux l'analyser et tu peux savoir quel type de relation t'entretiens avec telle ou telle personne. C'est-à-dire si c'est de la famille, si c'est des amis, etc. Enfin, y a pas mal de trucs là-dedans. Et du coup, ça, si, enfin, faut que ça évolue, hein, bien sûr. Dans l'état actuel, c'est pas encore fait. Mais si c'est toi avec ton navigateur qui garde la propriété de ton identité numérique, tu vas pouvoir définir tes propres relations, soit en les récupérant à partir de sites comme Facebook, Twitter, etc. Enfin, les sites qui te proposent, soit en les créant toi-même à la main. Par exemple, moi, sur mon blog, dans la sidebar, j'ai les blogs de certains potes et je mets, voilà, j'ai tagué avec ce micro-format en disant ça c'est le blog de mon frère, ouais, c'est de la famille, ça c'est des amis, enfin voilà. Mais
non, je suis d'accord, mais là on est en train de divaguer dans des doux rêves de hippie open source, si tu veux. Je suis d'accord que ça serait beaucoup mieux que ça fonctionne comme ça avec des données qui t'appartiennent et qui restent à toi, mais les gens qui connaissent et qui sont pour la propriété des données, mais ils vont peut-être faire ce genre d'opération. Mais Géraldine, la secrétaire du troisième étage, elle est sur Facebook toute la journée. Elle va pas aller, tu vois, elle va pas passer sur le système de Mozilla qui te permet en XFN liens. Tu vois.
Non, mais
Facebook, ils ont 400 millions d'utilisateurs. La bataille du réseau social, elle est pas gagnée, mais enfin elle est en tout cas pour les prochaines années, c'est plus Facebook que quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, mais justement, tu vois, Géraldine, la secrétaire du troisième étage, elle a peut-être aussi tous ces paramétrages de sécurité par défaut, tu vois, enfin de vie privée par défaut. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des profils Facebook, mais ouverts aux quatre vents, quoi. Enfin, tout est absolument partagé avec toutes les applications qu'ils utilisent. Ils partagent les photos des amis, de mes amis, de mes amis, de mes amis. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Enfin, je trouve que c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Et les gens sont pas éduqués pour ça, en fait.
Alors, pour conclure ce sujet, c'est vrai c'est un petit peu long, mais c'est important. Est-ce que avec ce nouveau système, les choses changent par rapport à ce qui existait avant ? Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans la chatroom. Beaucoup de gens disent oui, mais c'était déjà possible par tel ou tel système ou tel ou tel système. Pour moi, c'est différent. Mais est-ce que je me trompe ?
Je laisse Corben répondre d'abord.
C'est un peu différent parce que c'est plus intrusif, parce que tout le monde a... Enfin, si tu veux, avant, tu avais effectivement OpenID, des choses comme ça, donc il fallait te créer un compte, il fallait faire la démarche de te créer un compte pour être logué sur tous les sites, etc. Là, tout le monde a un compte Facebook, donc tout le monde est logué par défaut, en fait. Enfin, je dis tout le monde, mais beaucoup de gens ont un compte Facebook. Donc oui, ça paraît plus intrusif, surtout qu'il y a beaucoup d'informations qui sont échangées sur Facebook. Donc oui, c'est sûr, là, je suis d'accord avec toi, il y a plus de risques, il y a plus d'infos, il y a une plus grande ouverture, quoi. Mais après, bon, après, c'est aux gens de faire attention aussi à ce qu'ils font. Voilà, c'est non, mais c'est vrai, on peut rien y faire, quoi. Il n'y a rien qui empêche Facebook de faire ça. Ils font ça, je vais dire, ils ont raison de le faire. Hein. C'est ce qui va
Bah disons qu'il n'y a
leur...
rien d'illégal
Non,
dans la chose, quoi.
il n'y a rien d'illégal, mais enfin, moi je trouve que quand même ça pose des gros problèmes. Hein. Le fameux droit à l'oubli, bon, non, c'est pas le sujet de ce soir, mais quand tu vois que Mark Zuckerberg a dit, moi,
Qui est le PD,
Facebook.
le patron de Facebook, hein, pour ceux
Ouais,
qui savent.
qui dit qu'en fait, pour lui, toutes les infos devraient être publiques, que la vie privée n'existe pas, et voilà quoi. Enfin, pour moi, je trouve ça super grave dans la bouche du mec qui dirige cette société. C'est-à-dire que qui dit que demain, les conditions vont pas changer, ils vont dire, bon, écoutez, les mecs, vous adorez Facebook, tout ça, et ben, je vous emmerde. Et ben, maintenant, tout est public. Et voilà. Et bon, évidemment, ils feront peut-être face à une vague de désinscription, mais il y a beaucoup, on va dire, le public de masse va même pas se rendre compte de
Ouais,
ça,
c'est
quoi.
vrai, c'est vrai.
Et
Non,
ils
pareil.
continueront à partager leurs données, et puis voilà.
C'est
Et
sûr, il y a beaucoup de gens. Pardon, je t'interromps, mais vas-y.
non, et jusqu'à ce que quelqu'un d'autre à côté, pourquoi pas Corben, crée un nouveau Facebook et les geeks qui rentrent dessus, et puis les autres suivront, tu vois, et ainsi de suite. Mais je pense que ça va être cyclique. Très franchement, je le vois comme quelque chose de cyclique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont péter un câble, parce que vu au rythme où ça va, en fait, Internet, ça devient le Minitel de Facebook, quoi. Au
Ouais.
rythme où ça va, il va y avoir un moment donné un problème. Je sais pas lequel encore, tu vois, mais il va y avoir un problème. Et les gens avertis, tu vois, ceux qui écoutent le rendez-vous tech, partiront de Facebook et peut-être qu'ils iront vers un autre réseau social. On n'en sait rien. Peut-être que Twitter
Ouais.
sera le prochain Facebook, tu vois.
Oui, parce
C'est
que
sûr que
Facebook
tout est
sera devenu
possible.
le grand méchant, sera devenu le diable
En
et
fait,
moyen.
ouais, mais ouais. Puis d'un autre côté, tu sais, ça va me faire penser vachement à MySpace qui est devenu total has-been, je trouve.
Ouais.
Un jour, ça arrivera. Et puis, je pense que c'est cyclique, tu vois. Et on aura un nouveau Facebook plus tard. Enfin, voilà.
Disons que moi, il y a un truc que je voudrais noter, on l'a déjà dit dans l'émission plusieurs fois, c'est l'incroyable agilité et rapidité de Facebook, parce qu'il y a encore un an, ça sentait un peu le sapin, bon, peut-être pas le sapin, j'exagère, mais ça sentait plus très bon chez Facebook avec Twitter qui remontait. Ils ont bougé tellement vite et dans tellement de directions judicieuses qu'aujourd'hui, Facebook est complètement incontournable et avec cette nouvelle fonction, il s'impose et il sent ce comment dire, il se donne une assise qui va être vraiment difficile à déloger, même si effectivement rien n'est impossible. Et on a déjà vu de nombreux réseaux sociaux se péricliter. Il n'est pas du tout impossible que Facebook fasse de même. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que les gens, tout le monde dans la chatroom dit le problème, c'est pas Facebook, c'est les gens qui ne savent pas comment l'utiliser.
Carrément.
C'est pas faux, mais on peut dire la même chose sur les ordinateurs en général. La plupart des gens savent pas utiliser Windows, savent pas. Le problème, c'est pas Microsoft, c'est que les gens ne savent pas utiliser un ordinateur correctement, ils ne savent pas utiliser un navigateur correctement. Ils cliquent sur toutes les adresses qu'ils voient dans leur email et forcément, ils se retrouvent infectés de virus. Oui, mais ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas prêt de changer. Et les gens ne vont pas changer et il suffit pas de dire ah bah oui, le problème c'est pas Facebook, c'est les gens pour que les gens changent. Les gens ils vont pas changer. Donc
Non, non.
s'il y a un problème dans la nature de Facebook, c'est vrai que enfin, je veux dire, s'il y a un problème dans Facebook que les gens ne voient pas, on peut pas juste leur dire change et apprends de quoi il s'agit pour qu'ils apprennent.
Mais tu sais, moi je vois Zuckerberg, enfin, je vois un peu la vision qu'il a, si tu veux. Je vois un peu ce
Bah, il t'a
que.
appelé hier, non?
Ouais, c'est ça, ouais, on doit se faire un pique-nique là bientôt. Mais non, mais en fait, ces mecs-là, ils sont, si tu veux, ils ont plus de différence entre leur sphère privée et leur sphère publique. Ils sont entièrement publics. Il n'y a pas de limite, tu veux. Quand tu lis des bouquins américains sur les mecs qui montent leur boîte, qui sont, enfin, tu vois, tout ça fusionne en fait. Ils sont entiers, ils ont pas de séparation entre tout ça, et du coup, tout ce qu'ils partagent, c'est public, que ça soit des photos, que ça soit des relations avec des gens privés, perso, etc. Public, boulot, enfin tout ce que tu veux. Et eux, ils sont dans ce délire-là, en fait. Nous, on l'a pas encore trop en France, mais eux sont dans ce délire-là, et c'est vrai que ça leur pose aucun problème, en fait. Et bientôt, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'ils essayent d'initier petit à petit, de convaincre les gens, de dire que, bon, bah, c'est pas grave, si ton futur patron il voit tes photos de toi en maillot de bain en vacances cet été, parce que de toute façon même lui le futur patron il se dira bon bah c'est normal, c'est sa vie perso, bon voilà il va pas, tu vois,
C'est pas
Et
faux, ouais, bah moi.
puis t'auras les photos de ton patron dans une
En
partousse
maillot
cagoule aussi,
voilà,
tu vois.
et puis tu trouveras ça normal parce que tout sera mélangé, si tu veux.
Bah,
Il
c'est
y
vrai que
aura plus de secret, hein.
moi, je suis assez, j'ai une vie, bon, peut-être pas comme les Américains, mais j'ai quand même une vie aujourd'hui sur le net assez publique entre Twitter, Facebook, Flickr, machin, tous ces trucs. Mais c'est vrai que une autre réflexion qu'on a fait, c'est que on est en train tous ensemble, en tant que société, d'apprendre à vivre dans cet univers plus public qu'on ne l'avait avant. Et alors, on fait des essais, quoi. On voit jusqu'où on est en tant que société, en tant qu'humanité, prêt à aller, prêt à partager. Donc, il y a des fois, on va un petit peu trop loin, puis ça revient un petit peu en arrière, etc. Donc, c'est vrai que c'est une évolution qui est en train de se faire sur les peut-être 10, 15, 20 ans qui viennent. Et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, tous ces problèmes seront résolus parce que tout le monde aura l'habitude de ces choses-là et on saura où sont les nouvelles limites, quoi.
Ouais,
Mais
puis
moi
par
j'avais tendance.
définition, mais... ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, mais moi, tu vois, j'ai vraiment travaillé sur moi parce que j'avais un profil Facebook sur lequel j'avais vachement d'amis. Et je me suis dit, mais attends, où tu vas? Tu maîtrises pas les infos, enfin, tout ce que tu publies et tout ça. Donc, j'ai tout retiré. D'ailleurs, aujourd'hui, même les gens peuvent même plus écrire sur mon mur ni rien, quoi, tu vois. Enfin, j'ai vraiment tout retiré. Et je trouve que Twitter, dans ce sens, me permet de vachement plus maîtriser les infos que je diffuse. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas pourquoi, mais ça me semble plus sain. Peut-être que je me trompe, mais
Alors que moi c'est la fête du slip, hein, sur mon compte Facebook, hein. C'est autant d'amis que je peux, tout est mélangé. Enfin voilà, non mais c'est vrai. Enfin, mais ça me pose pas de problème parce que justement, pour moi, une info privée, une info perso, je la mets pas sur Internet, quoi, tout simplement. Même si c'est à partager avec des amis. Donc pour moi tout ça c'est public, quoi. Que mon ami, ça soit un ami de 15 ans ou quelqu'un que je viens de rajouter que j'ai jamais vu de ma vie, bon bah qui voit une photo de moi le week-end dernier, je sais pas où, à la campagne avec mon chapeau de paille, je m'en tape, quoi. Enfin, tu vois,
Tu
ça me
pars du
gêne.
principe que toi, tout ce que tu mets sur le web est public. Mais
Voilà,
bon,
c'est ça.
tu vois, encore une
Mais
fois,
c'est vrai.
nous trois, on est dans une catégorie un petit peu particulière parce que on est dans cette sorte de nouvelle catégorie de gens qui acceptent d'avoir une vie publique sur Internet, que ce soit par des sites web ou des podcasts. Donc, on s'attend à ce que notre vie soit publique dans une certaine mesure. La vie de Géraldine du troisième n'est pas forcément la même, quoi.
Oui.
Enfin
Ouais, mais
bon, on pourrait
tout
en
le monde
parler. Ouais, tout le monde s'en fout peut-être. Jusqu'à ce que. Mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde s'en fout jusqu'à ce qu'il passe un truc et qu'on ait besoin d'avoir des infos sur Géraldine du troisième. Et le jour où tout le monde s'y intéresse, le jour où tout le monde s'intéresse à Géraldine, on se rend compte qu'on a accès à toute sa vie. Alors
Ouais,
que
mais
tout le
alors
monde s'en foutait avant.
ça, tu pourras rien faire contre. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut éduquer les gens, quoi.
Voilà,
Faut leur
exactement.
parler, faut leur expliquer, parce que tout ce que Facebook la met en place, même Google, etc., tu peux pas lutter contre, y a rien à faire, quoi. Ça va partir comme ça, et faut juste apprendre aux gens à être méfiants, quoi.
Donc que ce soit Facebook ou quelqu'un d'autre, ça va finir par arriver.
Ouais.
Donc, la leçon à retenir ce soir, d'ailleurs, je crois qu'on va en faire le titre de l'épisode, c'est comment on peut dire, faites attention à votre sécurité, gérez votre vie privée.
Ouais,
Voilà,
je
gérez
sais. Ouais.
votre vie privée, virgule, boudiou.
Faites du slip sur
Ça me paraît.
Facebook.
Bon, on va parler d'une autre fête du slip.
Géraldine plutôt sur Facebook.
On va parler d'une autre fête du slip, c'est celle d'Apple, qui a eu la malencontreuse nouvelle de voir que un nouveau prototype de téléphone d'iPhone version 4 avait été perdu dans un bar. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a un type qui est un ingénieur informatique chez Apple. Il est ingénieur informatique et il teste le tout dernier iPhone. C'est-à-dire l'iPhone version 4 qui devrait sortir cet été. Il a cet iPhone version 4 qui a une forme un petit peu différente de l'iPhone actuel dans une sorte de caisse en plastique qui le fait ressembler à
une voiture.
à un iPhone actuel. Donc une il coque, peut le sortir
une coque, hein, voilà, une caisse en plastique.
Excuse-moi. Non mais le français c'est difficile aussi. Donc dans une coque en plastique qui lui donne un aspect d'iPhone 3GS. Il va dans un bar, il boit de la bière, il est tout content, machin, il prend des photos et malheur, il oublie son téléphone sur le bar.
Attention, là, parce que c'est pas de la bière, c'est de la bière allemande. C'est très
oui,
important pour la
très important, ouais,
ah oui, ouais.
Il y a un ami, enfin un type, pardon, qui ne le connaissait pas, qui voit ça. Donc il se dit, oh, bah, le type a oublié son iPhone, il le récupère, il demande au barman, vous savez qui c'est le mec là? Il a dû oublier son iPhone. Non, je sais pas, ok. Il prend l'iPhone, il le ramène chez lui. Bon. Il va sur Facebook, sur cet iPhone qu'il a trouvé, il trouve le nom de la personne à qui il appartient, évidemment. Et... il essaye d'appeler Apple, enfin non, à partir de là, l'iPhone se désactive. Donc le type, il se dit, oula, c'est bizarre, pourquoi est-ce que l'iPhone s'est désactivé? Il trouve un truc bizarre, il traficote un peu, il se rend compte qu'il est dans une coque en plastique, il vire la coque en plastique, et il se rend compte que c'est un prototype, enfin un modèle qu'il ne connaît pas. Il essaye d'appeler Apple, soi-disant, une ou deux fois, pour essayer de le rendre, et... il ne réussit pas à contacter la bonne personne, évidemment, vous imaginez, il a quelqu'un, si vous demain vous appelez Apple en disant j'ai un prototype d'iPhone, on va vous rire au nez, donc il ne réussit pas à le rendre, et là, pendant quelques semaines, plus de nouvelles, au bout de quelques semaines, deux sites de gadgets commencent à avoir vent de cette histoire et se tirent la bourre, ils mettent d'abord en ligne des photos hyper floues de cet appareil, tout le monde dit ouais c'est un fake, c'est pas possible. Finalement, l'un des blogs qui s'appelle Gizmodo contacte le type qui avait trouvé l'iPhone, va le voir et lui achète l'iPhone pour 5 000 $. À ce moment-là, il savait pas encore si c'était un vrai, une sorte de faux téléphone chinois copie machin. Il lui achète pour 5 000 $ et il se trouve que l'appareil est quand même vachement bien fait, vachement bien fini. Et bref, on vous la fait courte, il se trouve que c'est effectivement un prototype du nouveau modèle de téléphone. Et là, Gizmodo part dans une sorte de spirale invraisemblable où ils exploitent cette histoire d'une manière qui est presque indécente. C'est-à-dire que toutes les quelques heures, il y avait un nouvel article sur comment... Alors au début, c'était les photos de l'iPhone, puis c'était la vidéo de l'iPhone, puis c'était l'iPhone démonté, et puis ils disent « Apple nous a contactés parce qu'ils veulent récupérer leur iPhone, donc on leur a dit « Si vous nous envoyez un courrier officiel disant que vous vouliez le récupérer, on vous le rend ». Apple envoie le courrier, ils font un article sur le fait qu'Apple a envoyé le courrier, puis ils démontent le machin, ils montent les photos du truc démonté.
Puis ils vont aux toilettes.
Et puis ils racontent l'histoire de comment l'iPhone a été perdu. Ils mettent le nom de ce pauvre gars qui a perdu son iPhone partout sur le site. Ils racontent qui il était, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il était dans le bar, la marque de bière qu'il a bu, enfin tout.
Ouais, pourquoi est-ce qu'il était avec Franck Ribéry? Enfin, non, c'était horrible.
Exactement. Ce qu'il avait mangé à midi et tout, quoi.
Alors, ouais. Évidemment, au début, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Alors, c'est un fake, c'est un truc qui a été provoqué par Apple pour faire du buzz, etc. » D'ailleurs, quand on a commencé à parler d'histoire, la chatroom n'a pas manqué de dire « buzz iPhone ». Le consensus, c'est moi ce que je pense. C'est un peu crédule de dire que c'est Apple qui a voulu faire le buzz. Vous vous rendez pas compte à quel point ce type d'opération, ce type de faux pas, d'une part, si c'était une opération organisée, d'une part, ça réduit l'impact qu'aura l'annonce quand ils vont la faire un peu plus tard dans l'année, et d'autre part, ça fait baisser les ventes, ça a un danger de faire baisser les ventes de l'appareil actuel, parce que si on se rend compte que le nouvel appareil est comme ci, comme ça, il a tel et tel truc, entre parenthèses, il a rien d'incroyable, hein, une caméra devant, une meilleure caméra derrière, un flash, etc., et c'est à peu près tout. Donc, s'il y a tout ça, ça ralentit les ventes de l'iPhone actuel, etc., etc. C'est un gros danger. Et en plus, pour les gens qui disent « mais c'est pas possible de perdre le prototype, etc. », évidemment que c'est possible. Ils doivent le tester. Donc, pour tous les téléphones avant qu'ils sortent, ils envoient des gens, une vingtaine, une trentaine de personnes, le tester dans la vie réelle, entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir un téléphone alors qu'il n'a été testé que dans leur laboratoire. Ce n'est pas possible. Donc, ça se trouve, il y a déjà eu d'autres, il y a peut-être même eu d'autres téléphones prototypes sur les anciens modèles qui ont été perdus. On l'a jamais su, ils l'ont récupéré, c'est possible. Mais là, c'est la première fois qu'il arrive entre les pattes de Gizmodo, qu'il exploite de cette manière. J'ai fait un bon résumé de l'histoire?
T'es excellent ce soir.
Merci.
Bravo.
Alors, super qu'est-ce pitch. Que, d'une part, première question. La question de l'iPhone, à la limite, l'iPhone 4e version, bon, moi, je suis allé voir toutes les histoires, on n'apprend vraiment pas grand-chose, c'est pas super important. Moi, la chose sur laquelle j'aimerais vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'éthique de Gizmodo qui a acheté un appareil qui est, dont on peut arguer du fait qu'il est volé pour des fins mercantiles, journalistiques, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez ?
Bah, moi, je ne leur jette pas la pierre, franchement. Je suis d'accord que c'est un peu limite, mais d'un autre côté, ces gens-là, en fait, ils vivent de la publicité aussi, qui de l'audience de leur site. Donc, payer $5,000 alors que je sais pas comment ils en gagnent par jour, mais ça doit être quelque chose de monstrueux, parce qu'il y a une vraie rédaction chez Gizmodo, tu vois. Je pense qu'en fait, pour eux, ils ont calculé ce que ça allait leur coûter, y compris peut-être en procès, et ce que ça allait leur rapporter. Ben, ils se sont dit, allez, go, on y va, les gars. Sans déconner, on a l'exclusivité mondiale of the world. Pour tout te dire, moi, j'ai été dans le même cas de figure. Il y a à peu près 2 ans de ça. J'ai, à l'époque, du HTC Touch HD. J'ai eu la chance d'avoir cet appareil entre les mains, mais largement avant la commercialisation.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai été repris par Gizmodo à l'époque, qui avait fait tomber Geeking et qui avait fait tomber Génération Phonehouse, où j'ai fait une vidéo qui a été vue plus d'un million de fois en une journée. Et j'avais même dû la sous-titrer en anglais parce que les mecs comprenaient pas ce que je racontais en français, tu vois.
D'accord.
Et Sophie l'avait même doublé en anglais, je crois. Pour te dire qu'en fait, moi, j'étais dans la même situation, sauf que je gagnais pas d'argent avec mon blog, donc je m'en fichais un peu, mais j'avais quand même entre les mains un truc que personne n'avait vu. Et je me suis dit quand même, il faut que je le partage. Alors, moi, je l'ai joué plus finement. C'est-à-dire que j'ai contacté quelqu'un de chez HTC, mais bon, après, je ne devrais pas le dire, mais j'ai été malin. C'est-à-dire qu'au lieu de contacter le grand patron, j'ai contacté en fait un commercial local et je lui ai dit, est-ce que je peux publier des photos de l'appareil ? Ouais, vas-y. Ok, très bien. Et je n'ai pas redemandé une confirmation écrite.
Tu sais, à la limite, toi, tu as demandé l'autorisation. Tu peux être sûr que si... Parce qu'on sait... Le truc, on dit, est-ce que c'est un truc volé ? Non, ce n'est pas volé, c'était trouver machin. Le truc, c'est que à partir d'un moment, légalement, t'es obligé de faire confiance à la bonne foi de la personne. C'est-à-dire que là, Gizmodo ne pouvait pas ignorer que c'était un appareil dont qu'Apple avait perdu. Et légalement, évidemment, ça je le savais pas avant, hein, mais ça a été très étudié cette semaine après cette histoire. Légalement, la procédure légale quand tu trouves quelque chose, c'est de le donner à la personne, le laisser à l'endroit où tu l'as trouvé. Donc là, le mec aurait dû le donner au financier du bar, et évidemment, je veux dire, tu trouves un téléphone, tu le files au mec du bar, parce que le type qui l'a perdu, il va revenir au bar, il va pas essayer de te trouver.
Oui, mais a priori, il a demandé dans le bar si c'était à quelqu'un.
Bah oui, mais si le bar, dans le bar, ils savent pas. Donc, disons que légalement, c'est limite, on sait pas... j'explique pour les gens qui sont pas convaincus, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que légalement... Il est possible effectivement que ça soit considéré comme un objet volé. Et du coup, ça serait presque du recel de la pas du recel parce qu'ils revendent pas, mais achat d'objets volés de la part de Gizmodo. C'est pas moi qui le dis, c'est une question purement légale. Au sens strict de la chose, c'est pas qu'ils l'ont volé à quelqu'un, mais légalement, ça serait effectivement un objet volé.
Ouais, mais tu vois, dans mon cas, quand j'ai publié la vidéo et les photos, je savais pertinemment que HTC l'avait pas annoncé, le Touch HD. Ouais. Il n'y avait aucune info nulle part. J'ai cherché avant. Je ne savais pas ce qu'était cet appareil. Ouais. Et j'ai fait une vidéo. Si, franchement, j'avais le cœur qui battait à 100 l'heure. Et surtout, quand j'ai publié la vidéo dans mon coin, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va aller. Et quand j'ai vu qu'en retournant sur YouTube après ma pause déjeuner, il y avait déjà 500 000 vues. Là, j'ai fait, oh putain, il se passe un truc. Pour te dire, ça a été même très loin. Bon, maintenant, je peux le dire. J'espère que je risque rien en le disant, mais ça a été même très très loin parce que dans la vidéo que je faisais, je comparais en fait l'iPhone, parce que à l'époque il y avait l'iPhone, avec le Touch HD sur la qualité d'écran, la qualité des photos et tout ça. J'ai malheureusement eu un mot de trop sur l'iPhone. C'est remonté quand même jusqu'à Apple Europe, qui a vu que j'avais comparé l'iPhone au Touch HD, qui m'avait demandé de censurer la vidéo. Parce qu'elle avait fait tellement de... Si, elle avait fait tellement de bruit qu'il a fallu que je retire un morceau de la... Mais non, je peux le dire parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient même menacé Phonehouse de nous retirer l'autorisation de vendre l'iPhone si en plus on divulguait l'information que je suis en train de divulguer. Mais bon, bref. Maintenant, c'est fait. Hein. Passons. Non, mais ça me révolte en fait de voir ça. C'est-à-dire que c'est Apple qui m'a demandé de censurer la vidéo parce qu'elle avait été vue beaucoup de fois et que j'avais dit du mal de l'iPhone dedans, quoi. Tu vois, enfin... Franchement, ça a été très très loin aussi l'histoire de mon côté avec des pressions.
Moi, quand j'ai entendu cette histoire, quand j'ai entendu cette histoire de l'iPhone volé, j'ai surtout pensé au mec en fait qui l'avait perdu, et je me suis dit qu'il devait être dans une merde noire, il devait être en plein cauchemar, ça devait être l'enfer pour lui quoi. Ah, il a pas dû dormir pendant des plombes et il devait pas savoir ce qui allait lui arriver quoi. Oui. Du coup là pour Gizmodo, oui effectivement tu trouves un truc, allez fuck la loi, je publie et basta. Mais derrière il y a le mec aussi tu vois qui l'a paumé et là qui risque son job, qui risque en plus qui se fait afficher parce que voilà on connaît son nom, on sait qui c'est.
On parlait de Google, maintenant le mec, si tu cherches son nom dans Google jusqu'à la fin des temps, ça va être le mec qui a perdu l'iPhone quoi. Entre parenthèses, il est encore chez Apple, il a pas été viré.
Gizmodo
a parlé à son père. Il est encore, oui, c'est sûr que ça serait pas super à ce niveau-là, ça serait plus hyper en même temps, il a perdu l'appareil, c'était un gros enjeu quoi, parce que là, mine de rien, ça peut avoir des conséquences
très
financières très importantes quoi. Je veux dire, on rigole entre nous, ouais, fuck la loi comme tu dis, effectivement, ouais, c'est volé, c'est pas volé, c'est organisé, machin, ça a des conséquences hyper importantes quoi. Apple est une société qui est publique, qui a un cours en bourse, ça a des conséquences graves, donc c'est pas juste marrant quoi. D'un autre côté, si on veut se faire l'avocat de Gizmodo sur les principes journalistiques, ok, ils étaient un petit peu limites. Le fait de payer pour une info, c'est toujours un petit peu éthiquement pas discutable, mais enfin limite effectivement. Mais sur un principe journalistique, en ce moment, l'histoire là. C'est ça, c'est l'actualité, c'est ça. Est-ce qu'ils doivent se dire non, je vais suivre les indications de la personne qui... Oula, ça, il y a des petits trucs bizarres dans les sons. Est-ce que je vais suivre les indications et les instructions de la personne d'où émane cette information? Transposons ça dans un contexte politique, par exemple. Est-ce que un grand journal, un grand quotidien qui obtient un rapport secret qui n'a pas été, dont le gouvernement ne veut pas qu'il soit publié? Est-ce que le journal va dire « Ah bah oui, non, on l'a eu, il est tombé du camion, on l'a eu par un moyen un petit peu machin, donc on va gentiment le rendre au gouvernement ?» Oui, là forcément, on se dit « Non, bah alors l'iPhone, c'est pas un rapport sur la torture en Irak, mais les mêmes, si on se dit que c'est une question de principe, est-ce que les mêmes principes doivent pas s'appliquer quoi ?»
La liberté d'information, de la presse, de tout ce qu'on veut, liberté d'expression, je pense que ça a quand même une valeur. On peut pas. Après, je suis conscient que c'est hyper important et très grave pour Apple. Et puis pour être dans le milieu de la téléphonie et avoir beaucoup de proto, tu vois, quand j'ai fait mon test du Dell Mini 5, j'ai pas eu l'autorisation hein, réellement. Je l'ai pas eu. Ouais. Mais je l'ai fait quand même parce que après tout, il y avait eu des fuites déjà depuis très longtemps sur le web, donc c'était un peu différent, tu vois.
Oui, c'est pas la même situation.
Mais ça m'arrive souvent d'avoir des téléphones en prototype des mois et des mois avant, comme tous les Sony Ericsson, la X10 Mini et tout ça, je les avais depuis des mois et je les ai pas publiés parce qu'on m'a expressément demandé de pas le faire. Mais tu vois, regarde, dans un cas comme le leur, c'est franchement très difficile de se mettre à leur place. Mais toi, tu aurais trouvé ce prototype, tu aurais fait quoi, Patrick?
Très sincèrement, je sais pas. C'est très difficile. C'est comme dire ah ouais, moi si j'étais, si on me demandait d'aller à la guerre, je tuerais personne. Bah tu sais pas. Le genre de question, tu peux pas savoir quoi. C'est le genre de truc tu peux très héroïquement dire ah bah non, moi l'iPhone, je l'aurais rendu tout de suite à Apple sans problème. Non, j'en sais rien. Ça se trouve, tu vois, j'aurais fait une vidéo, la tentation aurait été trop grande. Ce que je peux dire par contre, c'est que
et t'as envie de le partager, l'excitation
du moment. Ouais,
non,
mais je comprends, quand même. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la manière dont ils l'ont fait chez Gizmodo, c'était limite, enfin, si tant est qu'on puisse employer ce terme dans le milieu tech, c'était limite obscène, quoi. C'était l'équivalent dans le milieu tech du paparazzi qui va prendre des photos, tu sais, de la nana sur sa plage. C'était vraiment ça, quoi. C'était,
ils ont fait durer le plaisir. Attends, ils avaient un iPhone, ils ont fait durer le plaisir. Ils ont fait le truc à rallonge pour que ça buzz pendant
le trafic.
Plus longtemps
ouais,
possible.
Ouais, mais c'était. Mais toi, Corben, tu l'aurais fait ou pas?
Est-ce que tu l'aurais fait à la vietnamienne, Corben?
Ouais, moi je suis un ouf, je pense que je l'aurais fait, mais je pense qu'il m'aura assassiné aussi derrière, donc. Je sais pas. C'est risqué quand même, hein, c'est le genre de truc. Là, je pense que Steve Jobs, il doit bien avoir les boules, hein, quand même. Enfin, même Apple, quoi.
Non seulement ils ont les boules, mais Gizmodo, ils sont sur la liste noire, non seulement d'Apple, mais à mon sens, de tous les autres constructeurs, parce que ça, c'est un drapeau qui se lève immédiatement, quoi.
Ouais, mais à la limite, ce que j'aurais fait là pour le coup, je pense que je l'aurais pas publié. J'aurais balancé le truc à genre Wikileaks ou je sais pas qui, un blog, je l'aurais envoyé à je sais pas qui.
Moi, tu sais quoi,
j'aurais balancé sur Geeking, tu vois.
Ouais, voilà. À la limite, tu fais des photos et des vidéos et tu appelles Apple, tu leur rends. Et ce que tu fais, c'est t'attends un peu et le matin même de l'annonce de la keynote, tu publies tout.
Bah, je sais pas, moi, sincèrement, je veux croire, je me trompe peut-être, mais je veux croire que j'aurais résisté et que je l'aurais pas publié. Mais peut-être d'illusions.
Non, mais moi, connaissant Apple et donc ayant eu cette mésaventure avec eux, je l'aurais très clairement, je l'aurais pas fait.
Ouais.
Même si, tu vois, je me suis permis de faire des trucs par le passé. Et encore, tu vois, même pas pour l'argent, parce que j'ai jamais gagné un centime de même de mes millions de vues sur YouTube. Donc,
t'avais pas mis ta vidéo en truc partagé qui te donne des sous?
Non, même pas, tu vois.
Oh là là.
Même pas, non, là c'était vraiment l'excitation du moment partagée avec les gens.
J'aurais appelé Apple et j'aurais dit, écoutez, je vous le rends, mais vous savez quoi, j'ai vraiment besoin d'un MacBook Pro, d'un iPad et d'un.
J'ai besoin de toute votre gamme d'ordinateurs.
Ah, parce que, enfin, je veux dire, moi je vous le ramène, hein, mais le métro ça coûte cher. tu vois, c'est. Bon, bref, ok, je pense qu'on a assez taillé le costard de Gizmodo et d'Apple en même temps. On va passer à un autre truc qui est tout aussi révoltant. C'est cette histoire de, alors, âme sensible, bouchez-vous les oreilles, Seedfuck. Seedfuck, c'est un nouveau service, enfin, une nouvelle technologie qui va faire. Corben, est-ce que tu pourrais, puisque ça vient de chez toi, l'article que j'ai vu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Seedfuck en langage compréhensible par le commun des mortels?
Ouais, Seedfuck, c'est une technique, en fait. Enfin, à la base, c'était un proof of concept,
une démo, quoi.
Si tu veux, pour montrer qu'il était possible d'injecter dans des échanges BitTorrent des fausses adresses IP, en fait. L'idée, c'est que tu crées une fausse connexion, en fait, une fausse adresse IP qui va générer, en fait, de l'activité sur ce qu'on appelle un hash, en fait, un fichier, en fait, un identificateur de fichier, et ces fausses IP vont donc créer du trafic qui peut être, tu vois, genre téléchargement terminé ou il reste, enfin, tu vois, des petits trucs, quoi. Ça va pas vraiment télécharger le fichier, quoi, ça va juste envoyer des alertes, enfin des statuts, et ça va te faire croire, enfin, ça va faire croire aux gens qui observent le réseau que effectivement telle adresse IP va télécharger tel ou tel fichier, quoi. Et donc ça, c'est Seedfuck, et bien sûr c'est sorti d'abord en C, c'est un code source, hein, n'importe qui peut utiliser, peut compiler, et bon, ben, bien sûr c'est un truc qui est tout con à faire, hein. Et puis ça a été traduit dans d'autres langages, PHP, Python, etc. Et donc du coup maintenant n'importe qui peut chez lui créer des robots qui vont polluer les réseaux, créer des clients BitTorrent qui vont faire qui vont balancer des fausses adresses IP aussi de leur côté. Enfin,
mais alors, là où ça devient véritablement intéressant, c'est que quand tu disais les gens qui vont surveiller les réseaux, c'est évidemment les organismes de surveillance qui font ça pour le compte des ayants droit, donc les gens type Adopi. Et l'autre élément qui fait que ça devient intéressant, c'est que ces adresses IP qui sont fausses sont des adresses IP qui existent. C'est-à-dire que, imaginons Cédric Bonnet, horrible pirate malveillant, se met à télécharger Avatar.
Je publie sur mon Facebook parce que j'ai cliqué sur like.
Voilà. Donc il se met à télécharger Avatar par un système d'échange de fichiers. Quelqu'un, quelque part, est en train d'utiliser Seedfuck avec ce système. Et il intègre des adresses IP au hasard, et il se trouve que l'une de ces adresses IP au hasard, c'est la mienne.
Ouais.
Eh bien, Adopi, qui est en train de surveiller cet échange, ne va peut-être pas choper Cédric, parce que bon, il ne prélève que quelques adresses sur l'immense quantité d'adresses qu'il y a. Mais par contre, ils vont choper mon adresse IP, alors que moi, je ne suis jamais allé sur ce système d'échange de fichiers.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Ça veut dire concrètement qu'avec ces quelques lignes de code qui ont été rendues publiques, l'ensemble du système Adopi est devenu totalement non fiable et, je dirais même, totalement contestable au niveau légal.
On le savait déjà, hein, l'adresse IP, c'est pas une preuve, mais même là, maintenant, on a vraiment une démonstration technique réelle, quoi.
Complètement.
Le problème, c'est que ça va poser un vrai problème aussi pour les gens qui utilisent les torrents, en fait.
Bah oui, parce que du coup ça va polluer le réseau.
Exactement.
Aussi avec des fausses adresses chez qui tu vas rien télécharger parce qu'elles n'existent pas.
C'est exactement. Sûr, mais d'un autre côté, à vrai dire, ce système, moi je vois ça du point de vue légal. Ce système n'a même pas besoin d'être utilisé parce que le principe du fait qu'il peut être utilisé suffit à mettre un doute dans l'idée de la surveillance
et dans l'idée de dissuasion.
Exactement. Donc on revient dans une situation qu'on connaissait au début des années 2000 et qui s'était apaisée un petit peu parce que les autorités semblaient s'être lassées. Mais c'est un système où les autorités pensent pouvoir contrôler le piratage, font des systèmes qui sont adaptés aux moyens qu'on utilise aujourd'hui, qui sont utilisés aujourd'hui pour pirater. Les pirates s'en rendent compte, font évoluer le système et donc les outils légaux, les organismes de surveillance, tout ça, qui sont basés sur les anciens systèmes, ne sont plus adaptés. Ils poussent le piratage dans des retranchements encore plus difficiles à retrouver. Et on a, entre-temps, jeté une quantité d'argent par les fenêtres totalement invraisemblable parce qu'aujourd'hui, Adopi, qui coûte très très cher, concrètement, ne sert plus à rien parce que ça n'amènera aucune condamnation nulle part avec ce système.
Ouais.
Donc,
voilà, hein, c'est, mais ça va être le beau bordel, mais ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant. Si tu veux, là, il y a plein d'innocents qui vont se prendre des courriers, etc. Alors qu'ils auront rien fait. Et puis, au bout d'un moment, quand il y en aura trop, ils se rendront peut-être compte que c'est de la merde. Enfin, que ça sert à rien de faire
non,
ça.
Non, mais
quoi.
Ce qui va être énorme, c'est qu'en plus, ils vont devoir prouver qu'ils sont innocents. Et c'est là où on va vraiment rire.
Accessoire.
Ah bah là, ça sera à toi de prouver que t'es innocent en installant un petit logiciel sur ton ordinateur.
Sous Windows.
Ouais voilà.
Ah, y a quelqu'un dans la chatroom qui nous dit que la police vient de perquisitionner chez...
Non, c'est vendredi dernier, en fait. Et d'ailleurs, sur Gizmodo, tu as toute la déposition. Ils ont tout mis, tous les documents sur Gizmodo, en fait. Voilà,
la police
est venue
à saisir
les serveurs et les ordis, quoi.
Ah oui, d'accord. Bah, j'avais même pas vu.
Ouais.
J'avais même pas vu, d'accord.
Bah, c'est normal, hein. Enfin...
Oui,
mais ça prouve bien que c'était le vrai.
Ça, c'est sûr que là, pour le coup... Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un assez gros morceau sur les sujets principaux. On va passer à nos rumeurs et nos news rapides. On avait quelques petits autres sujets, mais je pense que bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. En disant d'abord que la librairie du Congrès américaine a décidé qu'ils allaient archiver... Ah, pardon. Excusez-moi, j'oublie un truc, mais carrément hyper important.
Le jingle.
Séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Donc, la librairie du Congrès, qui est la plus grande librairie des États-Unis, la bibliothèque, pas la librairie, qui archive l'ensemble des ouvrages qui sont publiés aux États-Unis, a décidé qu'ils allaient archiver tous les tweets, donc tout Twitter, entièrement.
Alors, là, je pense au tweet que je viens d'envoyer juste avant qu'on commence, qui disait qu'on t'attendait parce que tu venais de partir pisser. Et ça va rester pour toute l'éternité dans un disque dur là-bas.
Voilà, c'est bon. Exactement. Mais alors, c'est marrant parce que la première réaction, c'est effectivement « Oh là là, mon Dieu, Twitter, toute la librairie du Congrès veut savoir qui a mangé un sandwich à quelle heure et quel chat a griffé quelle corbeille à quel moment. » Sauf que ça, c'est la première réaction. Moi, je trouve ça très avoir une vision un petit peu à court terme, quoi. Pas très comment dire, enfin, bon, bref, à court terme, parce que imaginez la mine d'informations que c'est Twitter. Imaginez par exemple que, bon, ça va paraître un petit peu idiot, mais imaginez qu'on ait eu pendant la Révolution française un truc qui nous permette d'avoir toutes les conversations que s'échangeaient les gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils... Enfin, c'est une mine d'informations, mais incroyable. Les historiens pourraient passer des heures et des jours et des mois et des années à étudier tout ça, et ça donnerait des détails sur la vie de cette époque qui seraient inatteignables par d'autres moyens, quoi. Donc, à partir de maintenant, on arrive... Bon, c'était déjà le cas, mais encore plus, on arrive à une étape de notre histoire où tout est archivé jusque dans les moindres détails et jusque dans les moindres... Parce que c'est pas juste ce qui passe à la télé ou les films ou les séries télé ou même les journaux qui sont toujours un petit peu loin du quotidien. C'est vraiment le quotidien de tout le monde, quoi. Donc pour moi, c'est un truc énorme et c'est une très bonne chose. Et je dirais même, il faudrait qu'on fasse la même chose en France, quoi. On a un devoir d'archivage, non ?
Ouais.
Oui, après savoir que tu fais des feuilletés je ne sais quoi ou des macarons machin, je suis pas sûr que ça...
Ils sont très bons mes macarons.
Oui, ils sont très bons, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas certain que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Enfin, on n'en sait rien, hein. Peut-être que demain oui, mais
bah, si tu veux, quand tu prends des événements comme la révolution en Iran ou je sais pas, même le crash de l'avion dans l'Hudson ou j'en sais rien, enfin tous ces gros trucs qui arrivent comme ça d'un seul coup et qui arrivent que sur Twitter au début, en tout cas tu peux, enfin historiquement c'est intéressant parce que effectivement, voilà, comme disait Patrick, si t'avais ça la révolution française ou les gros événements, tu peux retracer personne par personne, t'imagines pas, c'est comme si t'avais des milliers de caméras pointées sur l'événement et bien t'avais des milliers de récits du même événement, en fait c'est assez génial. Je pense que c'est bien le
hashtag prise de la Bastille aurait été sympa quand même, tu vois.
Mais c'est sûr.
mais voilà, non, mais ce que je veux dire c'est que
j'imagine les commentaires « Oh putain, les gars, Louis XVI est en train de se barrer. Il est sur la route au nord, vite !»
Voilà, non, mais c'est ça. On vient de le croiser, machin. Non, mais effectivement, pour certains événements, c'est très intéressant. Mais archiver tout Twitter,
bon, enfin, Twitter, c'est un peu de texte au niveau volume.
Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, pour en ressortir quelque chose... Remarque, on a des super moteurs de recherche aujourd'hui.
Bah,
mais
oui,
bon.
C'est ça. Bon, et puis en plus, en l'an 2200, tu t'imagines pas les moteurs de recherche qu'ils auront. Ça sera une sorte de robot qui fera ça à ta place.
Oui, c'est vrai. Et peut-être que Louis XVI utilise en fait Foursquare, en fait. Et donc il aurait mis...
Voilà, exactement. Donc tu sais où il est à tout moment.
Ah, il vient de faire un check-in.
Louis XVI check-in au palais de Versailles.
C'est ça.
Il est dans le petit Trianon. Bon, un autre truc qui est quand même marrant aussi, c'est qu'une boutique en ligne a annoncé il y a peu de temps qu'ils avaient acquis légalement les âmes de quelques milliers de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une démonstration des dangers de ces conditions d'utilisation qu'on voit souvent, enfin, ça fait quelques pages, donc on tourne très vite et on clique. Et ben eux, ils avaient inclus, c'était un vendeur de jeux en Angleterre qui s'appelle GameStation. Ils avaient inclus dans leurs conditions d'utilisation le fait que l'utilisateur acceptait de donner l'âme au site, de donner son âme au site quand il cliquait oui. Et donc, ils ont annoncé qu'ils avaient récupéré les âmes de plusieurs milliers de leurs utilisateurs. Et ils disaient que 88% des gens n'avaient pas lu le truc et avaient donc accepté. Et ils étaient maintenant propriétaires légalement de l'âme de ces gens-là. Et les 12% ont regardé et ils ont cliqué sur la petite option « Non, je ne veux pas donner mon âme
». Et en plus, ils ont eu une remise.
Voilà, exactement. Quand tu cliquais, tu gagnais 5 pounds de remise sur ton achat. C'est quand même fort. Bon,
Non mais c'est assez sympa. Moi je suis bien tenté de le faire sur sur le site que j'administre.
Franchement, qui lit les conditions quoi.
Ah bah c'est clair.
J'ai lu qu'une fois, c'était pour Hotmail et c'était en 96.
Depuis t'as dit ouais, c'est bon, j'ai compris.
Et c'est bon, ouais, c'était là, voilà, mais sinon
il y avait eu une histoire assez qui avait pris de l'ampleur aussi sur eBay, un type qui avait mis son âme à vendre et eBay avait argué du fait que l'âme faisait partie du corps et que dans leurs conditions d'utilisation, justement, tu pouvais pas vendre une partie de ton corps. Et là, l'autre avait dit oui, mais non, l'âme, ça fait pas partie du corps, machin, c'est séparé, tu peux. Voilà. Et puis, en fait, finalement.
Oui, en avant. Mais voilà. Ça me fait penser à. Comment ça s'appelle ? Mince, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, enchaîner.
Ok. Google vous informe sur les requêtes que font les gouvernements. Et là, je vais passer la parole à Corben parce que c'est lui le spécialiste de la théorie du complot. Donc, ça va l'intéresser.
C'est toujours à moi, mais il n'y a pas de théorie du complot. Hein. Le complot, il n'y a que toi qui le fais.
Mais non, tu te rends pas compte, attends, non mais Corben, tu sais pas comment ça marche les podcasts, faut mettre un petit peu d'action, un petit peu de suspense quoi.
Ouais, la théorie du complot, mais alors... c'est...
Ça m'est revenu,
derrière
en fait.
Vous auditeurs du podcast, regardez derrière vous, il y a quelqu'un qui vous espionne.
Bon, attends, on fait le suspense. Cédric, qu'est-ce qui t'est revenu ?
Non, en fait, c'était concernant iTunes sur iPhone. Les conditions ont changé il y a pas longtemps.
Ouais.
Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur l'iPhone, en fait, si vous voulez lire toutes les conditions, il y avait 80 pages à défiler de conditions générales. C'est juste impossible de prendre connaissance de 80 pages de conditions générales de vente sur un iPhone en plus, alors que tu allais juste pour faire la mise à jour de tes applis, quoi, tu vois.
Surtout que sur l'iPhone, quand tu le déballes, tu veux l'utiliser absolument dans la seconde.
Bien sûr, mais ça devrait être interdit de faire 80 pages de conditions générales.
Écoute,
c'est juste ça, quoi, tu vois.
Ouais, sans doute.
Après, le seul truc qui te sauve, c'est la loi, quoi.
Ouais,
exactement.
C'est sûr.
Avec des clauses abusives, etc.
C'est vrai.
Bon, alors, Google.
Ouais.
Google s'est amusé, a fait une petite Google Map avec dessus les chiffres, enfin la quantité en fait de demandes d'informations demandées par effectuées par les gouvernements, donc par tous les pays en fait du monde. Et ça se divise en deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a les demandes d'informations standards, c'est par exemple moi la France, je vais enquêter sur Patrick et je veux juste une petite information pour savoir, bah voilà, je voudrais connaître le contenu de ses mails ou je voudrais savoir ce qu'il a dans son profil, etc. Donc ça c'est des demandes d'informations. Et il y a aussi les demandes de.
Il suffit de demander, hein. Moi je t'envoie tout, pas de problème. Hein.
Ouais. Et il y a aussi les demandes de suppression en fait qui sont affichées. C'est-à-dire que là c'est plutôt la censure en fait. Parce que, ouais. Le premier exemple c'est pour des enquêtes policières par exemple. Pour enquêter sur quelqu'un, on peut demander à Google ou à Facebook d'avoir accès aux informations privées de la personne. Par contre, pour la partie censure en fait, demande de suppression, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment quels sont les pays qui sont un peu parano, obsédés et qui demandent beaucoup de choses à Google pour supprimer des informations de leur moteur de recherche ou de leurs différents services. Par exemple, pour les pays latinos, on a pas mal de demandes de suppression, mais ça correspond surtout au site de rencontre de Google qui s'appelle Orkut. Orkut, ouais. Enfin, je sais pas comment on dit. Donc là, ça peut rentrer, enfin, ça rentre dans un cadre logique, dans le sens où il peut y avoir des profils qui sont un peu limites, pédophiles ou j'en sais rien. Et là, par exemple, le Brésil peut demander à ce que ça soit retiré, supprimé, etc.
Ouais, Orkut, c'est l'équivalent d'un Facebook qui marche très très bien au Brésil, en fait, et uniquement au Brésil. Donc c'est normal que le Brésil soit au top des demandes dans les deux cas.
Donc c'est le Brésil qui est au top des demandes dans la censure, mais ça s'explique logiquement, on va dire, ça reste propre en fait. Après il y a l'Allemagne qui est aussi qui est second en fait dans ce top. Là ça s'explique surtout, je pense, par tout ce qui est objet.
Bah, les Allemands sont les Allemands sont très très pointilleux sur la vie privée. C'est les plus, déjà en Europe on l'est plus qu'aux États-Unis, et en Allemagne ils le sont plus qu'ailleurs en Europe en fait.
Il y a ça, puis il y a quand même pas mal de groupes qui ont quand même pas mal de sites ou de choses un peu nazies sur les bords, ouais. Et qui est le gouvernement allemand pousse Google, etc., à supprimer ces sites ou supprimer ces informations. pour pas que voilà ça ressorte, c'est un peu censuré, tabou.
Ouais.
Voilà, et ensuite bon, ensuite ça enchaîne sur l'Inde, les États-Unis, puis après on arrive Corée du Sud, voilà, etc. Enfin, bon.
Et la France est dans le au niveau des demandes d'informations, la France est cinquième quand même, derrière les États-Unis, enfin le Brésil bien sûr, les États-Unis, l'Angleterre et l'Inde.
Ouais.
Et pourtant l'Inde ils sont beaucoup. Et par contre, au niveau des demandes pour retirer des informations, la France est un peu, enfin bien bas, hein, moins de 10 demandes sur l'année.
Ouais, donc il y a
l'année 2009.
Ouais, il y a moins de 10, c'est entre 0 et 10, quoi. Donc on ne sait pas, hein, ça se trouve c'est 0, ça se trouve c'est 10. Enfin.
Et pour vous donner une échelle, les États-Unis, ils en ont demandé 123. Donc c'est pas non plus.
Non, et après, il faut voir que dans les choses qu'ils demandent à retirer, ça peut être par exemple des vues. Des vues de Google Maps sur des sites militaires ou ce genre de trucs, quoi.
Enfin, ouais,
ouais, ouais, ouais. Il y a ça aussi, ouais. Donc ça c'est pas excessif. Bon, après, c'est des chiffres qui viennent d'une certaine période, en fait. Ça s'étale de juillet 2009 à décembre 2009. Donc c'est très court, hein. C'est pas.
Ouais, parce qu'ils ont commencé à traquer. Ils vont le faire, en fait, tous les ans maintenant. Donc,
ouais.
Et pour info, il y a des gens dans la chatroom qui demandent ce qu'il en est de la Chine. La Chine, c'est un point d'interrogation.
Ouais, il y a un point d'interrogation sur la carte.
Voilà.
C'est parce que la Chine a demandé, exige de Google qu'elle ne divulgue pas ce genre d'informations.
Voilà. La Chine a supprimé Google de toute façon, donc comme ça, il y a
Yanari, Yanari dans la chatroom dit effectivement, la Chine a fait une demande. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoutez, dernière petite chose avant de passer à notre conclusion, c'est une information qui pour moi est assez intéressante, c'est pour la transition entre les générations. Le fait que aujourd'hui, selon une étude de Morgan Stanley, l'email est en train de péricliter au profit des réseaux sociaux. Comme on le sait, les réseaux sociaux gagnent en popularité. Et là, ça se confirme vraiment. Et les gens utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux comme moyen de communication de base. Et je le constate vraiment parce que les gens qui sont, on va dire, en dessous de 30 ans, ils utilisent vraiment Facebook comme nous. Enfin, je dis nous, mais les gens au-dessus de 30 ans utilisent l'email, quoi. C'est vraiment, ils sont tout le temps sur Facebook et leur moyen pour s'envoyer des messages, c'est de s'envoyer des messages par Facebook. Et c'est marrant de se dire que Facebook, ça appartient à Facebook, quoi. L'email, ça appartient à personne, ça vous appartient à vous. Et les gens sont en train de se diriger vers Facebook. Moi, ça me...
Non, mais en fait, il ne faut pas oublier juste un détail. C'est que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut te contacter peut t'envoyer... qui ne connaît pas ton adresse mail peut te contacter via Facebook juste en ayant ton nom et prénom. On te recherche dedans et on peut t'envoyer un message direct même si on n'est pas ami avec toi.
Ouais.
Donc, en fait, c'est cet aspect annuaire géant qui fait que les réseaux sociaux surpassent le mail. Parce que t'es pas obligé d'avoir en fait les coordonnées exactes de la personne pour le contacter, quoi.
Facebook.com/notepatrick. Effectivement,
voilà.
C'est simple.
Non, mais même tu recherches dans le moteur de recherche de Facebook et on te retrouve en tapant ton nom et ton prénom.
Bah, tu peux en sortir. Moi, j'ai demandé à en sortir, mais je sais pas si c'est. Enfin, j'ai les deux pages, quoi. J'ai une page privée, et une page publique, donc.
Ouais, mais bon, tu sais, les conditions ont encore changé, donc maintenant c'était public.
Ouais, exactement, ouais. Ok, bon, bah écoutez, on va de ce pas passer à notre conclusion. Et comme vous le savez, vous l'attendez tous, le début de notre conclusion, c'est avec la statosphère de Guillaume. Et on se lance tout de suite.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de monitoring et d'uptime. Derrière ces mots barbares se cache une notion assez simple. Monitorer un serveur revient à vérifier aussi souvent que possible son bon fonctionnement. On mesure notamment l'uptime qui correspond à la mesure du temps durant lequel un service est accessible sur Internet. L'uptime est un enjeu important, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Le service de monitoring Pingdom nous apprend par exemple que Twitter a présenté au cours des 12 derniers mois un uptime de 99,75%. Concrètement, cela signifie qu'au total, Twitter n'aura été indisponible que durant 24 heures en 365 jours. Parallèlement, ce mois-ci, en avril, Twitter n'a accumulé que 35 minutes d'indisponibilité, c'est-à-dire un peu moins que Facebook, mais bien plus que YouTube ou MySpace, qui ne sont quasiment jamais inaccessibles. L'uptime est une donnée importante pour Twitter. En effet, on se souvient que le service TinyURL, jusqu'alors utilisé par Twitter pour réduire les URL saisies dans les tweets, avait finalement été écarté en raison de son uptime très médiocre et de ses fonctionnalités minimalistes, au profit de Bitly, plus court, plus véloce et ouvert au développement. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
J'adore. Il y a quelqu'un qui clique beaucoup pendant qu'on entend le truc. Donc, les deux, là, les deux petits Zozo, Cédric et Corben, qu'est-ce qu'ils font pour dire qu'il y en a un qui clique ? Ils envoient des messages sur Skype et donc on entend le fait qu'ils envoient des messages. C'est parfait.
Oh, mais vaut mieux entendre des messages que des clics. Ça fait juste un petit plouf.
Non, mais en fait Corben, il s'emmerde, il est en train de surfer sur Internet, là.
Et moi, tu les entends pas, mes messages ? Non, j'ai chopé un lien Gizmodo que j'ai balancé dans la chatroom parce que je m'occupe de ta chatroom pendant que toi tu vas buller en passant tes petits extraits de Statosphère. Et voilà, j'ai mis un petit lien sur Gizmodo où la police avait saisi l'ordinateur de l'employé d'Apple apparemment.
Ah bah envoie-le, je l'ai pas trouvé sur la chatroom. Envoie-le sur Skype, je le mettrai pour.
J'en mets sur la chatroom.
Ah voilà, ok, merci. Je le mettrai pour que les gens qui ne sont pas dans la chatroom puissent en profiter aussi. Ouais, c'est vrai que cette histoire d'Uptime, merci beaucoup à Guillaume d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur toutes les stats dont il parle régulièrement, vous pouvez aller sur statosphere.fr, il y a plein de trucs super sympas là-bas. Et cette histoire d'Uptime, tu sais, moi je me disais, ouais, bon, ça va, si un site est pas accessible pendant une journée dans l'année, c'est pas non plus invraisemblable, un ou deux jours, ça va, personne va en mourir. Mais quand on se rend compte que chaque jour où ils ne travaillent pas, par exemple, un site comme YouTube, disons, par la pub, ça leur coûte plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars chaque heure, enfin bon, chaque jour où ils sont pas disponibles, c'est sûr que faut faire attention, quoi. Tu peux pas te permettre de faire comme moi je fais avec mes sites web. Le jour où je veux changer un machin, je le fais en live pendant une heure, la page ressemble à rien. Bon, c'est pas grave, on s'en fout.
Pour l'Uptime, il y a carrément même des vrais concours, quoi. Il y a des mecs qui s'amusent à tenir leur serveur pendant plusieurs années sans plantage, sans reboot, etc. Il y a ça. Et sinon, si vous voulez surveiller votre Uptime sur votre site, il y a pingdom.com, je crois. Ouais, c'est .com. Ça s'écrit P-I-N-G-D-O-M. Ouais, j'ai pas écouté, désolé. Et qui proposent ce service, en fait. Et moi, là, juste pour me la péter un peu, mon Uptime du mois de mars, c'était 99,99%.
Et ça, c'est... Bravo, j'aimerais que la chatroom applaudisse Corben aussi. Parce que là c'était clairement un appel.
5 minutes et 57 secondes offline.
C'est tout.
Ouais, mais c'est parce que j'ai rebooté plusieurs fois la base pour faire des mises à jour.
Ok, bah écoute, bravo. C'est effectivement un atout. Et c'est sans doute pour ça que ton site vaut combien déjà ? 14 milliards de dollars, c'est ça ?
Non, 1,3 milliards. Millions, je sais plus.
1,3 millions. Écoute, moi je serais toi, je vendrais et j'irai aux Caraïbes. Je dis ça, je dis rien. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Et vous savez ce qui se passe à la fin de l'émission ? Non. C'est le moment où on peut parler de iTunes. Parce que sur iTunes, quand vous nous laissez des commentaires, eh ben, ça nous permet d'être un petit peu plus présents sur le catalogue d'iTunes et ça nous donne tout plein de visibilité en plus et on apprécie beaucoup. Et vous pourriez faire comme Yab qui nous a laissé un message pas plus tard que hier et qui nous dit « Avant, il y avait Patrick Bruel, maintenant il y a Patrick Béja ». Et le titre de son commentaire, c'est Patrick. Alors celle-là, on me l'a jamais faite. Hein. Je veux dire, dans les années 90, jamais, ça c'est jamais arrivé. Il nous dit « Je suis le podcast depuis de nombreux numéros et je trouve le temps de déposer un avis qui plaît tant à Patrick. C'est un podcast qui est excellent avec ses invités Jeff, Mathieu et Yann, entre autres, que vous pouvez télécharger les yeux fermés, toujours à la une de l'actualité tech avec un avis réfléchi, adopter la béjatitude. » Merci Yab, c'est vraiment gentil de ta part. On a un peu moins d'avis quand même que Geeking qui nous écrabouille. Donc si vous voulez, si vous voulez soutenir votre podcast préféré contre l'empire du mal de Geeking, je sais pas pourquoi je dis ça.
Ah mais toi c'est un podcast audio Geeking, c'est parce qu'il met que des gonzesses à poil dans son podcast. Alors du coup les gens le regardent. Regardez à Geeking, vous allez voir, il y a que de la nana bien roulée.
c'est pas faux. Cédric a ce don d'attirer les femmes attrayantes. Ouais. Donc voilà, pour iTunes, merci beaucoup à tous. Si vous avez deux minutes à perdre, ça sera vraiment apprécié. Adoptez-vous aussi la béjatitude. J'aime bien ce mot. Pour faire quelque chose. Et maintenant qu'on a fait notre petit coup de promo iTunes, c'est à vous les gars. Cédric, où peuvent te trouver les gens qui t'ont trouvé tellement sympathique et agréable ailleurs que dans cette émission?
Ben sur alors en fait sur nowatch.tv puisque les podcasts sont publiés sur en exclusivité sur nowatch.tv et sinon en fait geekink.fr le blog en fait où on avait tout un peu d'actu et tout ça à fermer parce que d'autres le font bien mieux que nous comme le journal du geek ou autre et donc en fait on a laissé le blog ouvert où on parle juste un peu de enfin on donne des nouvelles du podcast ce qu'on va faire machin tout ça mais c'est plus un blog on va dire sur les off de geeking donc geeking.fr et sinon en fait je m'occupe d'une société qui enfin du site web d'une société qui s'appelle The Phone House et j'ai lancé un podcast il y a 2 semaines maintenant mais il est encore en rodage donc c'est pour ça que j'ai pas trop communiqué dessus qui s'appelle The Phone House 360 et en fait tous les vendredis je fais un point sur l'actu de la mobilité en général donc téléphone portable essentiellement
et le, voilà. Le nom du
et
site
ça, on
c'est
le retrouve quoi sur generation-phonehouse.fr voilà
ok. Et d'ailleurs, y a le compte Twitter de The Phone House. Oui. Si vous avez une question sur les téléphones portables, vous faites @TheFoneHouse sur Twitter et vous posez votre question et ils répondent dans la demi-heure. C'est invraisemblable.
Oui, en fait, c'est moi qui suis derrière le compte. Donc là, je pense que je vais un peu en chier.
Ouais, voilà,
attends,
faites
j'ouvre
un
de
truc
suite
marrant.
Mon tweet deck parce que ça va être affreux. Là.
Fais un truc marrant. Non, mais je dis ça parce que moi j'ai testé et à chaque fois ça m'a répondu avec pile la réponse dont j'avais besoin, donc c'était parfait. Donc voilà, si vous avez. Non, mais c'est je dis pas juste ça pour faire plaisir à Cédric, c'est vrai. Hein. Je vous le recommande vraiment. Corbenou, t'en es où?
C'est bon.
Bah t'as demandé mes informations au gouvernement français, c'est bon, je peux t'appeler Corbenou quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
T'en es où avec tous tes sites et Remix Job et tout?
Remix Job, on a progressé là. Enfin, je suis en train de finaliser là le blog sur lequel on va mettre quelques petits trucs. On est en train de bosser sur une partie CV, donc les gens vont bientôt pouvoir mettre leur CV en ligne. Voilà, et c'est sympa parce qu'en fait, plutôt que de mettre ton CV et puis d'attendre qu'on te contacte, etc., tu pourras toi postuler en un seul clic. En fait, c'est assez rapide. Tu vois une annonce qui te plaît, tu cliques, tu mets postuler et le recruteur reçoit ton CV instantanément en fait.
Pour ceux qui l'auront pas compris, oui. Corben a eu l'idée de génie un jour de faire un site d'offre d'emploi spécialisé dans le domaine de la technologie et de l'informatique et du web quoi.
Voilà, donc on a une trentaine d'offres par jour, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on a des bonnes petites boîtes. Là, il y a Amazon qui a posté là cette semaine. Enfin bon, ça évolue bien, ça avance bien. On a plein d'idées, plein de projets, donc c'est cool. Après, niveau actu, il y a le blog, hein, dont je m'occupe toujours, corben.info. Ça me prend pas mal de temps, surtout en ce moment. Là, la nuit, je bombarde pas mal d'articles.
Ouais, je sais pas ce qui se passe la nuit. Tu te réveilles sur Twitter et sur ton blog, ça y va. Hein.
Ouais, mais en fait, là, en ce moment, en fait, je bombarde. Je sais pas, j'ai envie, je suis en forme.
Ok.
Donc ouais, pareil, Facebook, Twitter, je pollue pas mal Twitter avec pas mal de liens et d'articles, etc. Dont j'espère que ça intéresse les gens. Sinon tout roule, tout va bien. Ce week-end, je vais à une petite convention Star Wars. Je le dis parce que ça peut être sympa. Si vous vous ennuyez, vous habitez dans l'Allier ou pas trop loin, là, dans le 03 ou dans le Massif Central, hein, c'est peut-être un peu loin pour les Parisiens.
Ouais.
Y a une petite convention Star Wars. Je suis pas sponsorisé rien du tout. Hein, je connais personne là-bas, mais je vais y faire un tour, peut-être filmer un peu.
M'amuser. Ils ont un site, un truc.
Ouais, ils ont. Je crois que c'est genstarwars.com. genstarwars.com. Un truc comme ça.
Bon, on mettra le lien.
Sinon,
sur
vous cherchez sur Google, tu cherches Star Wars QC.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça. genstarwars.com. On mettra le lien sur les notes de l'émission, de toute façon, si vous n'avez pas de stylo sur vous immédiatement.
Voilà.
Ok, bah merci. Pour moi, comme vous le savez, bah c'est NotePatrick, hein, NotePatrick partout, NotePatrick.com, Facebook.com/NotePatrick, Twitter.com/NotePatrick, c'est pas compliqué, donc vous pouvez, n'hésitez pas à me suivre où, là où vous êtes, et bah, y a des chances que j'y sois aussi, enfin pas chez vous, mais je veux dire sur le net. Ouais, c'était pas bon ça. Et sinon, nowatch.fm, comme vous le savez, c'est un regroupement de différents podcasts audio de qualité. C'est-à-dire que il y a des podcasts vidéo sur nowatch.tv et il y a des podcasts audio sur nowatch.fm. Et comme Cédric est là, on pourrait parler par exemple de Season 1, qui est un podcast animé par sa très chère compagne Sophie, oui. Entre autres, sur les séries télé. Donc si vous aimez les séries télé, et qui n'aime pas les séries télé, franchement, je vous le demande, vous pouvez écouter Season 1, ou par exemple, puisque Corben est là et qui parle aux pros de l'informatique, Techno IT, qui est un podcast audio, un peu tech comme nous, mais un petit peu plus orienté vers les pros. Donc si vous êtes un sysadmin par exemple, et que vous avez envie de vous tenir au courant des trucs sans vous coltiner les 60 000 blogs et les 60 000 sites spécialisés qu'il faudrait lire, et ben Techno IT, ça vous aidera certainement. Et tout ça, c'est sur nowatch.fm. Et ben vous savez quoi, on est arrivé au bout. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission avec Jeff et Yann. J'espère que Yann ne sera pas flemmard ce coup-ci. Et c'est tout. On vous remercie tous, on remercie la chatroom, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
C'est un jeu en fait, j'attends combien de temps les gens peuvent tenir en silence.
Chut, tais-toi,
je chut, clique.
Tais-toi. T'as perdu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.